Merci de cette invitation et merci à tous d'être ici. Donc, je vais vous parler de deux expériences de crise qui ont eu lieu à la fin des années, dans les années 1880. Donc, c'est très ancien, mais en même temps, ce sont deux expériences qui, je crois, ont montré comment les banques centrales pouvaient inventer des nouvelles solutions dans des crises. Et en ce sens, la Banque de France, dans les années 1880, puisque ce sont deux épisodes français que j'ai choisis, en quelque sorte, invente des solutions à ce moment-là qui sont encore utiles aujourd'hui. Et on va regarder à la fois comment elle agit, dans quelle situation, ce que sont ces crises. Comment la Banque de France agit à ce moment-là, et également quelles sont les limites, éventuellement les dangers de ce type d'intervention. Donc, j'ai repris dans ce que vous allez avoir ici, il y a juste un certain nombre de documents. Il y en a qui sont probablement un peu compliqués à lire. J'essaierai de les décrire rapidement chaque fois. Si vous avez des questions, parce que ce que je dis est trop technique ou pas suffisamment clair, n'hésitez pas même à m'interrompre, parce que je pense qu'il vaut mieux, dans certains cas, clarifier une chose au moment où on l'a dit, plutôt qu'y revenir tout à fait à la fin. On laissera un peu de temps pour les questions après, mais entre-temps, n'hésitez pas si vous le jugez nécessaire pour comprendre. Donc, le point de départ de ça, de cet exposé, c'est donc l'aller-retour entre ce que l'on considérait comme la doctrine des banques centrales à l'époque et celle qu'on considère aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai reproduit ici les portraits de deux des personnes qui ont contribué le plus à définir ces doctrines. Walter Bagehot, qui est l'éditeur pendant longtemps du magazine anglais bien connu The Economist, et qui publie en 1867 un livre dont j'ai repris ici la couverture de la traduction française publiée en 1874, qui s'appelle Lombard Street, et qui est le livre qui essaye d'expliquer ce que doivent faire les banques centrales pour réguler le marché monétaire et le marché financier. Et ce livre est encore considéré comme un livre fondateur en matière d'action des banques centrales. À côté, il y a le président actuel de la Federal Reserve américaine, mais qui n'est pas seulement, si j'ose dire, un président de banque centrale, mais c'est surtout, dirais-je, un spécialiste de la théorie des crises et de l'histoire des crises, qui en particulier a écrit les livres de référence sur la crise de la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. Ben Bernanke, Walter Bagehot, donc deux figures qui sont un peu les deux extrémités de la doctrine en matière d'action des banques centrales, et en particulier d'action pendant les crises. Pensez qu'au moment où Walter Bagehot écrit, les banques centrales commencent à considérer comme de leur devoir normal que de procéder à ce qu'on appelle aujourd'hui, rétrospectivement, parce qu'on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, une politique monétaire. Une politique monétaire qui cherche à réguler la conjoncture de manière à éviter que les fluctuations économiques soient trop fortes et lisser la situation, par exemple, limiter le nombre de faillites qui peuvent avoir lieu. Ce lissage ayant lieu à la fois, d'ailleurs, dans le temps, mais aussi en partie dans l'espace, au sens où, dans un espace hétérogène comme celui d'un grand pays, des crises qui sont localisées peuvent être atténuées si la Banque centrale sert à étaler dans l'espace, en permettant à des régions dans lesquelles il y a une abondance de liquidités, de refinancer des régions qui sont en pénurie de liquidités. Donc la Banque centrale peut jouer ce rôle dans l'espace comme dans le temps. Ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place. À l'époque, ça commence à être, sinon théorisé, du moins assez largement pratiqué par les principales banques centrales qui existent alors, c'est-à-dire essentiellement la Banque d'Angleterre et la Banque de France, hein, puisque je vous rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas de banque centrale avant 1913. Ce qu'écrit Bagehot en 1867, c'est plus que ça. C'est comment la Banque centrale doit intervenir quand il y a une véritable crise financière, c'est-à-dire quand on a un blocage possible, non pas une crise économique, mais un blocage du système financier dans lequel on risque d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui une crise systémique, c'est-à-dire une crise qui, partie d'une institution financière, se répand sur les autres et, par un effet boule de neige, en entraîne un grand nombre dans la faillite. Ceci avec des conséquences sur l'ensemble de l'activité économique, puisque c'est ce qui est nouveau à ce moment-là. Les gens, désormais, ont des comptes en banque. Ils payent avec des chèques ou ils payent avec des virements. Dès lors qu'on paye avec des chèques ou des virements, si votre banque, tout à coup, n'est plus en mesure de les faire, votre activité économique s'arrête. Ce n'est pas comme auparavant, où l'essentiel des paiements se faisait en espèces ou se faisait de manière décentralisée, sans passer par les banques, directement de commerçant à commerçant. Là, on a une situation nouvelle, et ce risque nouveau qui en résulte, le risque d'avoir une faillite en chaîne des banques, est celui que traite Bagehot, et il propose une doctrine qui est la suivante. Dans une crise bancaire de ce type, la Banque centrale peut intervenir de la manière suivante, en prêtant de manière illimitée, donc quels que soient les montants nécessaires, il faut qu'elle prête, mais uniquement en échange de garanties sûres. Donc essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire du papier commercial, des dettes d'entreprise et des dettes liées à l'activité réelle des entreprises, donc en quelque sorte des créances sûres qu'ont les banques sur les entreprises. Pour que la Banque centrale prête aux banques, il faut que les banques acceptent de lui confier les créances les plus sûres, et s'il n'y a pas de ces créances les plus sûres, eh bien la Banque centrale ne refinance pas. Parce que s'il n'y a pas de ces créances les plus sûres, c'est que la banque elle-même n'est pas solvable, et la Banque centrale n'a pas à sauver des établissements qui ne sont pas solvables. Elle a seulement à aider des établissements qui sont dans une situation temporaire d'illiquidité, parce qu'elles ont des créances qui vont arriver à échéance dans les jours, dans les semaines qui suivent, mais qui, au moment précis où la banque a besoin de liquidité, ne sont pas parvenues à maturité. Et donc elle va confier ses créances à la Banque centrale, qui va lui faire un crédit juste pour joindre... c'est pour joindre, faire ce décalage, couvrir ce décalage temporel. Et la deuxième chose, c'est que Bagehot dit aussi, la Banque centrale, s'il y a des bonnes garanties, peut prêter à des montants illimités, mais elle doit le faire à des taux élevés, de manière à sanctionner les banques pour avoir pris des risques. Et après tout, payer des taux d'intérêt élevés sur quelques jours, même sur des montants très élevés, ça va pas, c'est pas ça qui va mettre les banques en faillite. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elles ne soient pas tentées de parier sur l'aide que va leur apporter la Banque centrale. Il ne faut pas qu'elles soient tentées de parier sur cette aide, parce que sinon, elles vont passer leur temps à prendre des risques, et la Banque centrale va devoir intervenir tout le temps, et là, ça va complètement déborder de sa fonction nécessaire. Aujourd'hui, ce que fait Ben Bernanke depuis maintenant plus de 3 ans, ça s'inspire en théorie de ça. On inonde le système bancaire de liquidités, mais comme vous aurez remarqué, ça ne dure pas qu'un temps très bref, ça dure depuis des années, et on le fait à des taux extrêmement faibles, puisque pratiquement les banques actuellement empruntent à 1%, quelquefois à moins, aux États-Unis à moins. Donc en fait, on leur prête de l'argent en quantité massive à des taux extrêmement faibles. Alors, est-ce que c'est un progrès par rapport à la théorie de Bagehot ? En tout cas, ça la contredit. Et la raison qui est derrière, c'est que Ben Bernanke, qui a étudié la dépression des années 30, voit au cœur de cette dépression des faillites en série de banques. Et il considère qu'il n'y a rien de plus précieux que de sauver le système bancaire, et par conséquent, quel que soit le prix à y mettre, en quelque sorte, il faut le faire. Alors les deux épisodes qu'on va examiner sont deux épisodes dans lesquels il y a une très grande banque qui fait faillite, avec deux modalités assez différentes, et dans ces deux cas, on va voir que la Banque centrale intervient d'une manière extrêmement différente. Alors ça, c'est le contexte, en quelque sorte, c'est les taux d'intérêt et les taux d'intérêt en France pendant la période qui va de 1870 à 1900. Donc c'est le contexte large des deux épisodes que je vais étudier. Et les deux épisodes sont les suivants. 1882 ici et 1889 ici. Comme vous remarquez, ce sont deux moments où il y a un pic dans les taux d'intérêt à court terme, à la fois dans les taux d'intérêt que pratique la Banque centrale, qui sont en gris, ici, avec des longues périodes de stabilité, parce que la politique de la Banque de France, c'est de maintenir des taux d'intérêt extrêmement stables le plus longtemps possible. Et puis, sur le marché interbancaire, hein, où ça bouge, au contraire, à peu près tout le temps, ça bougerait plus si on avait des données à plus haute fréquence. Là, c'est des données à une fréquence mensuelle. Et puis, ce qui bouge très lentement, ici, c'est le taux d'intérêt sur la dette publique, sur la rente perpétuelle 3%. Ça, c'est un taux d'intérêt qui bouge lentement, mais ce qu'on peut quand même observer, c'est que dans les années 1870, ce taux baisse en permanence. Il atteint son minimum pratiquement au moment où la crise a lieu. Il remonte légèrement, il est à peu près stable, et il recommence à diminuer après la crise, après la deuxième crise. Alors, cette longue baisse des taux d'intérêt à long terme, qui représente la rente 3%, est ici en contradiction avec une remontée des taux d'intérêt à court terme. Et quand vous observez ça, une baisse des taux d'intérêt à long terme et une hausse des taux d'intérêt à court terme, eh bien c'est un bon signe pour savoir que vous devriez avoir une crise financière qui va arriver. Alors ça fait longtemps qu'on le sait, ce n'est pas pour ça qu'on trouve la solution, parce qu'en fait ce que doit faire la Banque de France ou la Banque centrale pour essayer de prévenir une crise, c'est bien de remonter ces taux d'intérêt. Effectivement, c'est ce qu'elle fait. Bon, elle le fait très tardivement, puisque vous voyez qu'en fait, le minimum ici, hein, à 2% qu'a pratiqué la Banque de France un temps, elle y revient en fait, même jusqu'à la veille de la crise. Et c'est bien ça en fait qu'on va lui reprocher. Elle aurait dû élever les taux plus tôt, de manière à ce que la spéculation s'arrête. Les deux crises sont dans des contextes très différents, et c'est essentiellement à ça que sert ce graphique. La première, donc, c'est ce contexte de contradiction entre les taux d'intérêt à long terme et les taux d'intérêt à court terme. La deuxième, au contraire, on est apparemment dans une période de relative stabilité. En termes d'économie réelle, les années 1870, c'est une année de boom, une année de croissance économique relativement forte. Les années 1880, c'est une période de stagnation complète et même de recul de l'économie après la crise de 1882. Et sans doute, pour une bonne part, à cause de cette crise. En réalité, le maximum du PNB qui est atteint en 1882 n'est atteint de nouveau qu'en 1888. C'est-à-dire qu'il y a 6 années pendant lesquelles le PNB est en recul par rapport au maximum qu'il a atteint en 1882. C'est une situation rare. Je pense que c'est à peu près ce qui attend la Grèce actuellement. On peut espérer que ça ne nous pende pas au nez, nous également. Après 1889, à la différence d'après 1882, on ne verra pas réellement d'impact de la crise. Donc on a deux crises qui se distinguent déjà apparemment par les différences d'impact sur l'économie. La première, un impact apparemment très fort, négatif. La deuxième, apparemment pas d'impact. Alors ces deux crises sont aussi très différentes parce que la première est une crise, d'abord une crise liée au marché boursier. Là-dessus, vous avez un indice des cours des actions françaises, un indice qui montre que pendant toutes les années 70, et particulièrement à partir de 1878 ici, vous avez quelque chose qui ressemble fort à une bulle financière, c'est-à-dire une très forte appréciation des cours des actions, suivie par un krach qui a lieu ici. Cet indice, en fait, est très optimiste, au sens où... le krach affecte est probablement en fait d'une amplitude plus grande que ce qu'il suggère. En tout état de cause, vous voyez qu'on peut dater assez précisément le moment où ça se passe, c'est en fait janvier 1882. Janvier 1882, c'est connu, c'est le crack de l'Union Générale. L'Union Générale, c'est une nouvelle banque qui a été créée par Eugène Bontout, qui est portraituré ici, et qui est créée en 1878. C'est une banque liée au milieu d'affaires catholique, par opposition, et qui se revendique catholique et conservatrice, par opposition aux intérêts protestants ou juifs dans une autre partie de la banque, qui s'oppose, qui est une banque conservatrice, voire monarchiste, par opposition aux républicains. On est dans une période, on rappelle, 1878, c'est le moment où la République est à peine réellement établie en France. Hein, jusqu'à 1876, on a une espèce de République de fait, depuis la chute de Napoléon III. On a une République de fait, mais il y a encore des espoirs importants de rétablissement de la monarchie. Comme on enseigne habituellement, c'est plutôt les divisions des prétendants monarchistes entre les légitimistes, les bonapartistes et les orléanistes qui font que la monarchie n'est pas rétablie. La majorité de la Chambre, jusqu'à 1876, est en quelque sorte monarchiste. À partir de 1876, il y a une période, disons, de flottement, et à partir de 1879, elle est vraiment aux mains des républicains. Donc on voit qu'il y a un contexte politique qui explique aussi cette opération. Cette opération, c'est une banque d'affaires lancée donc par des intérêts catholiques et monarchistes pour développer une partie de l'Empire austro-hongrois en accord avec ce qui est la plus grande monarchie catholique d'Europe, qui est l'Empire des Habsbourg. Cette entreprise va financer toute une série d'entreprises, en particulier des grands chemins de fer, dans les Balkans, dont vous savez qu'ils jouent un rôle stratégique à ce moment-là, qui se révélera encore plus avec les guerres des Balkans, puis la Première Guerre mondiale. Donc il y a des enjeux politiques, géopolitiques, derrière cette opération-là, qui vont donner lieu à toute une série d'élaborations, les gens accusant après sa faillite, les républicains, les protestants, les francs-maçons, les juifs, enfin, tout ce qu'on veut, d'être à l'origine de cette faillite. Les choses pourtant sont en fait plus simples. Ce qui va se passer, ça va surtout se passer là, c'est-à-dire à la Bourse de Paris, où a lieu cette activité spéculative massive sur le marché des actions, et en particulier sur le marché des actions du secteur de la finance. Alors, l'Union Générale est concernée, mais pas seulement l'Union Générale. Il se crée des dizaines de petites banques avec des objectifs variables pendant cette période. Toutes ces petites banques spéculent sur le marché financier et cherchent et réussissent et gagnent de l'argent, du moins tant que ça monte. Et comme vous avez vu, ça monte, et ça monte beaucoup pendant une partie de la période. Alors comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Alors ça, vous avez ici une mesure des variations de l'activité à la bourse. Et si vous regardez ça, alors c'est pas très lisible, hein, ça commence en 1819, ici on est en 1850, et là vous avez une grande période d'augmentation qui s'arrête ici, 1881, exactement, hein, c'est notre période. Donc on a, ça c'est la guerre de 70, hein, d'accord. Mais en dehors de ça, il y a des grandes fluctuations, il y a un recul au début des années 1860, mais fondamentalement on a des transactions très importantes. Alors c'est assez mal mesuré, hein, parce que c'est mal enregistré, mais on a quand même une petite idée. Ça c'est une autre manière de regarder ça, sauf qu'ici on commence en 1879 parce que les sources ne nous donne que ça, on va jusqu'à la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on observe ici? Les transactions boursières, mais réparties en deux catégories, les opérations au comptant, en rose, et les opérations sur le marché à terme. Ce qui est frappant, c'est que l'essentiel de la bulle spéculative qu'on observe, c'est-à-dire l'explosion du montant des transactions au moment de la fin des années 70, début des années 80, se passe sur le marché à terme. À vrai dire, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les bulles spéculatives. C'est toujours les produits dérivés pour lesquels les quantités de transactions explosent, parce que c'est là, c'est comme ça qu'on spécule. Les opérations comptant, il faut avoir de l'argent pour les faire, donc on ne peut pas réellement spéculer. Les opérations à terme, on peut, en apportant un tout petit peu d'argent, acheter beaucoup, et donc là, on peut prendre beaucoup de risques et éventuellement gagner beaucoup. Ces opérations à terme, comme vous observez, elles atteignent en 1981 un montant plus élevé qu'aucun montant qui sera atteint jusqu'à la Première Guerre mondiale, malgré la croissance économique, malgré l'activité financière qui va reprendre et qui va dépasser largement le niveau de 1981. En termes de spéculation pure, on a un niveau supérieur en 1980 à celui qu'on atteint à aucun autre moment de la période. Alors que sur les opérations au comptant, comme vous voyez, ça va mettre du temps, mais ça va quand même être dépassé à partir du début du XXe siècle. Donc on a quelque chose qui est quand même une crise tout à fait exceptionnelle en 1882, en janvier 1882. Alors cette crise, elle se produit sur le marché à terme. Comment est-ce que ça fonctionne ? Marché à terme, plutôt que d'acheter un titre, vous achetez aujourd'hui le droit d'acheter ce titre à un moment donné, dans le futur. Vous achetez une action de l'Union Générale, au lieu de l'acheter aujourd'hui 500 francs, vous acceptez de la payer éventuellement 550 francs au prochain règlement. Le règlement, c'est quelque chose qui a lieu tous les 15 jours à la Bourse de Paris, donc vous avez des règlements le 15 et le dernier jour du mois, tous les mois. Qu'est-ce qui se passe si, le jour du règlement, le prix de l'action est de 600 ? Ah ben, si le prix de l'action est de 600, banco, parce que vous avez acheté le droit d'acheter à 550 quelque chose qui vaut 600. Donc, le dernier jour, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, hop, j'exerce mon droit et je revends. Donc, vous achetez, vous vendez de manière immédiate. Et vous encaissez la différence entre les deux prix, en l'espèce, 600 moins 550, vous avez gagné 50. Et vous avez gagné 50 en déposant un tout petit peu d'argent en début de période, au moment où vous avez passé ce contrat. Vous voyez qu'en immobilisant simplement, en général, quelque chose comme 10% du montant, juste en l'immobilisant, même pas en le payant réellement, vous allez gagner éventuellement beaucoup d'argent. Si le prix est en dessous de 550, qu'est-ce qui se passe ? Ah, là, vous avez perdu. Mais maintenant, de deux choses l'une. Soit vous décidez que vous encaissez votre perte, c'est-à-dire, en gros, vous apportez la différence entre 550 et le prix réel. Donc, si le prix est de 530, ben, vous apportez 20, et puis on déboucle l'opération. En général, il n'y a pas de livraison des titres. C'est simplement que voilà, vous allez apporter 20, et puis ça va se passer comme ça. Si vous continuez à être persuadé que ça va monter, vous pouvez demander ce qu'on appelle le report de votre opération. À ce moment-là, vous trouvez quelqu'un qui va accepter de détenir à votre place le titre que vous vous êtes engagé à acheter. Donc comme vous êtes engagé à l'acheter, il faut bien que, d'une certaine manière, quelqu'un l'achète. Mais au lieu que ce soit vous, c'est quelqu'un d'autre qui va vous prêter de l'argent implicitement pendant la période suivante et qui va détenir le titre comme garantie. Et vous pouvez, comme ça, reporter sur une période, puis sur une autre, puis sur une autre. Ça peut durer longtemps, tant que vous y croyez, et puis tant qu'il y a des gens qui acceptent de vous prêter de l'argent pour le faire. Et les reports, en quelque sorte, c'est simplement du crédit, et un crédit qui est bien garanti, puisqu'il est garanti par les titres qu'on met en report, avec, en général, une marge pour se protéger contre une baisse éventuelle de ce titre. Donc tout ça, en temps normal, ça fonctionne bien, ça donne des opérations très très importantes. Les opérations qui sont réalisées en bourse à la fin du XIXe siècle, c'est chaque année un multiple, c'est 3 ou 4 fois le montant du PNB. Donc on dit qu'aujourd'hui il y a eu de l'innovation financière et qu'on fait beaucoup de transactions, certes, mais on en faisait déjà des montants très très considérables à l'époque. Ce qui veut dire aussi que les encours qui existent à tout moment, Et donc les risques qui sont associés sont des montants vraiment très élevés, et en particulier très élevés par rapport aux montants qu'on peut vouloir engager, qui peuvent être nécessaires pour sauver ce système. Les grandes banques prêtent sur ce marché des reports des montants très importants. Ça peut aller jusqu'à 20% de la totalité de leurs prêts. C'est un marché qui a l'avantage d'être extrêmement liquide. C'est-à-dire que vous prêtez pour une durée qui peut aller jusqu'à 15 jours. En général, le report, c'est 15 jours. Et au bout de ces 15 jours, il y aura quelqu'un d'autre, vous pouvez retirer votre argent. Etc. Donc c'est l'endroit où les banques mettent l'argent qu'elles veulent garder en réserve comme très rapidement disponible. Ce n'est pas aussi disponible que du papier qu'on peut réescompter à la banque centrale et qu'on peut immédiatement liquider, mais c'est quand même quelque chose de très liquide. Donc, les banques qui font des immobilisations sur des crédits à moyen terme, des choses comme ça, ou qui veulent pouvoir continuer à prêter de manière durable à des entreprises auxquelles elles prêtent à 3, 4, 5, 6, 9 mois, elles ont en contrepartie beaucoup d'argent qu'on appelle en report pour se protéger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, évidemment, si tout le monde veut liquider ses reports en même temps? C'est là qu'on a des difficultés. Alors, ces reports, la difficulté pendant cette période, c'est qu'ils vont devenir autre chose que simplement un marché de placement pour les liquidités disponibles des banques. Ils vont aussi devenir un marché en soi de spéculation. Et pourquoi ? Parce que dès lors que vous prêtez sur le marché des reports, vous avez une garantie, donc normalement vous êtes protégé. Néanmoins, s'il y a une variation très forte des cours à la baisse, il est possible qu'il y ait vraiment une perte importante. Or, il existe une chose dans le droit français de cette époque-là qui ne sert pratiquement jamais, mais qui est quand même une espèce d'épée de Damoclès suspendue sur le dos des opérateurs sur les marchés boursiers, c'est une clause juridique qui fait que les marchés à terme n'ont pas de statut légal. Jamais, jusqu'à 1885, et en fait en réaction à cette crise, quelqu'un qui a perdu en bourse massivement, normalement, il faut qu'il paye, mais il peut plaider ce qu'on appelle l'exception de jeu, c'est-à-dire dire « Ah, on m'a induit à jouer, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était un jeu. Je pensais, je ne sais pas très bien ce qu'il pensait, mais en l'espèce, il peut arguer de cette exception de jeu pour ne pas payer. » Évidemment, la plupart des gens, en temps normal, ne le font pas, parce qu'une fois que vous avez fait ça une fois, vous pouvez toujours revenir, aucun banquier ne vous accordera plus jamais de crédit. Mais dans une situation où vous êtes vraiment totalement ruiné et où arguer de l'exception de jeu vous permet de vous sauver votre situation, la tentation devient grande. Or, en 1882, c'est ce qui va se passer. La chute de la bourse est tellement importante qu'il y a toute une série de gens qui vont arguer de cette exception pour se refuser à payer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, celui qui avait prêté, il a des recours. Il a un premier recours, c'est de s'adresser à l'intermédiaire qui a fait l'opération. Alors, quand c'est un agent de change, c'est quelqu'un qui a une surface financière substantielle, il y a 60 agents de change à Paris, alors qu'il y en a 2000 à Londres. C'est aussi parce que les agents de change parisiens sont 20 ou 30 fois plus importants que les agents de change londoniens à cette époque-là. Donc c'est des gens qui ont une grosse surface financière. Normalement, ils peuvent absorber ce genre de problème et ils le font. Et puis vous avez un deuxième recours, c'est que en plus, si votre agent de change se retrouve en faillite, eh bien vous pouvez faire un recours contre la compagnie des agents de change, c'est-à-dire la totalité des agents de change qui sont réunis en une espèce de corporation et qui sont solidaires entre eux. Donc ça vous donne quand même un nombre de garanties conséquent, ce qui fait que sur le marché boursier parisien, il y a vraiment, les risques sont faibles, sauf à tomber sur une entreprise qui fasse pratiquement faillite, dont la valeur se déprécie totalement, auquel cas, vous risquez d'avoir des pertes. Et ce que vous risquez surtout, c'est eh bien, de devoir attendre que les agents de change vous remboursent. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, en quelque sorte, votre risque, c'est d'immobiliser un peu votre argent pendant un certain temps, plus qu'un risque de perdre votre argent. Mais ça, c'est ce qui se passe sur le marché officiel, c'est-à-dire devant la Bourse de Paris, les agents de change, corporations organisées, statut officiel, garanties, réserves, enfin tout ce que vous voulez. Donc, bon, un truc apparemment ultra solide. Si vous allez en dehors de ces agents de change et que vous faites des opérations avec ce qu'on appelle alors la coulisse, c'est-à-dire tout un ensemble d'opérateurs, d'intermédiaires financiers qui n'ont pas de statut légal, mais qui néanmoins font des tas d'opérations, qui sont à la frontière de la légalité, mais enfin, qui représentent quand même à peu près la moitié de l'ensemble des transactions qui se font à Paris, que ce soit les grandes banques, des petits opérateurs plus ou moins recommandables. Tous ces gens-là font beaucoup d'opérations. Et là, vos garanties, c'est essentiellement celles qu'ils vous ont données. Et il n'y a aucune. Leurs fonds propres ne sont pas forcément très élevés. Et il n'y a pas de corporation, il n'y a pas d'association, il n'y a rien qui vous protège. Et dans ces cas-là, on peut avoir des taux d'intérêt sur les reports qui reflètent en quelque sorte le risque que l'on peut observer sur les titres qui sont reportés. Et quand on compare les taux de différentes caisses de report pendant cette période-là, on voit que certaines caisses de report, donc des petites officines qui, en gros, empruntent à des gens pour placer sur le marché des reports, mais pas sur le marché officiel, mais sur des marchés officieux, eh bien, on peut avoir d'assez substantielles différences dans les taux de l'un à l'autre, parce que ça correspond à des risques différents. Néanmoins, l'essentiel, c'est les différences entre titres particuliers, et quand certaines entreprises sont sur le point de faire faillite, normalement, on devrait voir le taux de report sur leurs titres augmenter, parce qu'il y a quand même un risque substantiel qui est attaché au fait, même simplement, de prêter aux gens qui veulent spéculer sur ces titres. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1882 ? Eh bien, on a un choc tellement important que même les agents de change font faillite. C'est-à-dire que la chute des cours est tellement forte en janvier 1882 que toute une série d'agents de change voient des clients très nombreux faire des pertes très importantes, se placer sous la protection de l'exception de jeu et dire on ne rembourse pas. Les agents de change eux-mêmes n'ont pas assez de capitaux pour rembourser les prêteurs et vont être en faillite. Ce qu'on observe ici, c'est que cette année-là, 1882, tout ça, c'est l'ensemble des différentes formes de suspension de paiement ou problèmes de liquidité ou faillite qui touchent les agents de change pendant le 19e siècle. On voit qu'il y a une première période où il y en a eu beaucoup, c'est avant 1840. Ensuite, c'est essentiellement stabilisé. Il y a encore quelques exemples ici. Et puis, en 1882, c'est l'année où il y en a le plus du siècle. Donc c'est à nouveau une crise exceptionnelle. Comment est-ce que normalement la compagnie des agents de change réagit par rapport à ça ? Eh bien, elle couvre les pertes et elle vire les membres qui ont été incapables de subvenir à de couvrir leurs pertes, puisqu'il ne faut pas inciter d'autres agents de change à prendre de tels risques dans le futur. Donc, en général, on les force à abandonner leur siège. On récupère d'ailleurs la valeur du siège qu'on va revendre à un nouvel entrant. Et comme ces sièges valent des montants très importants, c'est une manière de renflouer en partie, de couvrir en partie les pertes. Donc, en 1882, il y a une masse d'agents de change qui se retrouvent en difficulté. Au moment où la crise frappe, il y en a 14 sur 60. C'est pas rien. Et ceux qui vont réellement se retrouver insolvables et réellement en faillite, il y en a 7. Donc c'est un montant élevé. Alors comment est-ce qu'on fait face à ça ? On voit bien qu'on n'est plus dans la situation d'un choc partiel qui touche un certain nombre de débiteurs, qui touche par voie de conséquence un certain nombre d'agents, un petit nombre d'agents de change, ce qu'on observait jusque-là. Là, on voit quelque chose qui est une sorte de choc systémique, non pas sur le système bancaire, mais sur la bourse. Et la bourse, eh bien, elle est crucial pendant cette période-là parce que, je vous rappelle, les grandes banques investissent quelquefois jusqu'à 20% de l'ensemble de leurs actifs en bourse. Si les banques ont 20% de leurs actifs en bourse, ça veut dire que si la bourse se bloque complètement, qu'elle s'arrête, les banques ont ces 20% qui sont ceux qu'elles doivent avoir de plus liquides normalement, qui sont brutalement immobilisés. Et on a le risque d'avoir toutes les grandes banques qui font faillite derrière. Donc tout le système de paiement qui s'immobilise, tout le système de crédit qui s'arrête. Que faire à ce moment-là ? Eh bien, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on organise, on demande un prêt à la Banque de France. Il y a la Compagnie des agents de change, comme entité, demande un prêt à la Banque de France et va obtenir pour ce prêt la garantie de la quasi-totalité des banques de la place, à commencer par le baron de Rothschild, qui est le grand maître de la banque française à l'époque, pas encore beaucoup plus prestigieux que ne serait M. Pébrot aujourd'hui. Et la Banque de France accepte de prêter. La Banque de France accepte de prêter, donc, quelque chose de très spécial. Elle accepte de prêter non pas à une banque en difficulté, elle accepte de prêter à un système de mutualisation, de garantie du fonctionnement de la bourse. Alors, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu, qu'on n'observe à peu près jamais, et qui, est pour la première fois, se présente dans une situation particulière, un marché boursier extrêmement développé, une crise extrêmement brutale et des interdépendances entre les agents de change qui font qu'on a le risque que, à partir de ceux qui sont en difficulté, l'ensemble de la bourse s'arrête. La Banque de France accepte, elle fait ce crédit. Est-ce que c'était légitime ? Alors, il y a plusieurs manières d'examiner ça. La première, c'est s'ils étaient solvables et donc s'ils étaient solvables, ils ont dû rembourser. Alors, de fait, les agents de change vont rembourser, et ils vont rembourser, en fait, extrêmement vite. Là-dessus, vous avez les revenus et les dépenses de la compagnie des agents de change. Comme on n'est pas surpris de voir que le maximum des revenus, c'est en 1881, donc, évidemment, au moment où l'activité est à son comble, que les revenus chutent brutalement dans les années qui suivent, et l'écart entre les revenus et les dépenses, donc les dépenses sont ici, les revenus sont ici, d'habitude, l'écart entre les revenus et les dépenses, on en met une petite partie en réserve, et puis tout le reste, en fait, on le redistribue aux agents de change. Donc, en fait, on lève les recettes, c'est essentiellement l'équivalent d'une sorte de taxe prélevée sur les opérations de bourse. On la prélève, on paye les dépenses, et puis on redistribue le reste aux agents de change. Donc, pour eux, en fait, la taxe est vraiment extrêmement faible. En plus, elle est payée, évidemment, essentiellement par les utilisateurs de la bourse. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces années-là ? Essentiellement, on va rembourser, on va rembourser l'emprunt de la banque avec ça. Et cet emprunt, en fait, la moitié est remboursée, plus de la moitié est remboursée dans les tout premiers mois. Et dans les mois suivants, qu'est-ce qu'on fait ? On va emprunter, les agents de change vont prêter à leur compagnie eux-mêmes de quoi rembourser le reste, de manière à ne plus être dépendant de la Banque de France. Et ceci dès la fin de 1882, de sorte que le crédit de la Banque de France aux agents de change, il dure quelques mois. Ce qui suggère qu'effectivement, la compagnie des agents de change était largement solvable, que faire ce prêt était légitime parce qu'il permettait de sauver le fonctionnement de la bourse sans que la Banque de France ait réellement pris de risques ou sans qu'elle ait favorisé une profession au détriment du reste de l'économie. Les garanties qu'ont données les banques, entre parenthèses, n'ont absolument été actionnées à aucun moment. Donc la Banque de France était doublement couverte par la richesse des agents de change, par les garanties bancaires. Et en fait, la richesse des agents de change a suffi à rembourser ça extrêmement vite. Au bout de quelques années, la compagnie des agents de change a même remboursé ses propres membres de l'avance qu'ils avaient faite sur leur fortune personnelle. Et donc on se retrouve avec une situation similaire. Ce graphique permet quand même de voir une chose, ça c'est le fonds de réserve de la bourse avant le fonds nominal pendant le moment où on règle ce problème s'envole, mais la réalité c'est qu'il diminue, c'est-à-dire que la différence entre les deux c'est ce prêt interne à la compagnie, et puis après il retrouve une pente légèrement ascendante. Ce qui est quand même frappant là-dessus, c'est que regardez, de 1873 à 1881, le fonds de réserve de la bourse, ben, il n'augmente pas beaucoup. Pour une période dans laquelle l'activité augmente extrêmement vite, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne peut pas dire qu'ils aient été d'une prudence exemplaire, nos agents de change. Peut-être qu'ils ont accumulé, et apparemment ils ont accumulé de la fortune individuellement qui leur a permis effectivement de rembourser ce prêt. Mais en revanche, en termes d'augmentation du montant de la solidarité de la caisse commune qui permet de faire face au choc, c'était manifestement un peu léger. Et à vrai dire, il l'augmente un petit peu par la suite, mais c'est quand même avec modération. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient réellement été d'une très très grande prudence. On voit ici que, effectivement, c'est eux-mêmes qui ont bénéficié de la spéculation avant 1881, c'est eux qui souffrent un petit peu après, puisque là-dessus, vous avez le prix des charges d'agents de change. Alors, c'est des prix, il y a très peu de transactions, hein, puisqu'il y a 60 charges, et qu'en général, les gens restent une vingtaine d'années en place, donc vous voyez que le nombre de transactions est faible. Et en plus, le prix auquel sont faites les transactions est contrôlé par la compagnie des agents de change, qui considère que une charge d'agent de change, c'est pas une entreprise dont l'activité lui appartient en propre, c'est un 60e de la compagnie des agents de change. Et donc, le prix doit être le même pour toutes les charges. Donc, ce qu'on observe là, c'est quelque chose qui est plus un 60e du prix de la compagnie que réellement le prix de chaque charge. Et ensuite, les gens se bagarrent pour essayer d'avoir les bonnes charges quand elles sont en vente et essayent d'éviter de racheter une pas bonne. Enfin, comment en quelques années on peut améliorer le fonctionnement d'une charge, quelquefois ils rachètent une pas bonne en se disant qu'ils vont quand même réussir à gagner beaucoup d'argent avec. Bon, ben, on voit à nouveau que la dernière vente à un prix, au prix maximal d'1 800 000 francs, c'est le 17 janvier 1882. Celui-là, il a vraiment bien fait de vendre ce jour-là parce qu'on était déjà en pleine crise. La négociation avait dû être préparée longtemps avant et bon, ça a été payé à ce moment-là. Ensuite, le prix baisse légèrement, ce qui suggère que la bourse n'est pas réellement bien remise de cette opération. Donc, la leçon de cet épisode, hein, c'est que dans cette crise boursière majeure, on a pu voir intervenir la Banque centrale pour sauver le marché boursier, et que ce faisant, elle est finalement conforme à l'esprit, sinon à la lettre, de ce que suggère Bagehot, au sens où elle sauve ce qui est le cœur de la liquidité sur le marché boursier, hein, la liquidité pour l'ensemble de l'économie. Le point central à cette époque-là, ça n'est pas forcément le marché du crédit interbancaire, comme ça l'est par exemple à ce moment-là aux États-Unis ou en Angleterre, mais c'est au moins autant ce marché des reports boursiers sur lesquels les banques investissent une grande partie de leur liquidité. Ce qui veut dire que la faillite de l'Union Générale, je ne vous ai pas parlé beaucoup, la faillite de l'Union Générale, elle a été ce qui provoque l'effondrement de la bourse. Ce n'est pas tout à fait la faillite, mais l'Union Générale a spéculé largement sur ses propres actions, a fait toute une série d'opérations sont à la limite de la légalité. Et début janvier 1882, on apprend que non, ça, en fait, ces affaires ne vont pas du tout. Le prix de ces actions, en quelques jours, s'effondre de 3 000 à 500 francs. Donc, c'est vraiment une chute grave. Et un mois plus tard, elle est en faillite. Donc, c'est ça qui provoque réellement la chute de la bourse parce qu'on s'attend à ce que des tas d'entreprises qui sont liées soient victimes. Une partie importante de la spéculation en question se passait d'ailleurs dans cette ville, où le même groupe de gens qui avait créé l'Union Générale avait créé la Banque de Lyon et de la Loire, qui faisait en encore plus risqué ce que faisait déjà de manière risquée l'Union Générale. Donc la crise bancaire elle-même elle est grave, elle joue un rôle de déclenchement dans, dans le, ce krach, mais la crise bancaire est, n'aurait pas eu tant d'impact sur l'économie, indépendamment de l'aspect boursier, parce que c'est des banques, fondamentalement, des banques d'investissement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas énormément de dépôts. Les dépôts ne sont pas des dépôts à vue de petits épargnants, mais ce sont essentiellement des comptes ouverts par des gens riches qui mobilisent leur argent, qui espèrent avoir des revenus élevés. Mais il n'y a pas l'effet de la faillite d'une banque de dépôt dans laquelle des milliers de personnes retirent leur crédit, qui ont, retirent leurs dépôts et dont les dépôts sont placés éventuellement dans d'autres banques avec des effets de prêts interbancaires importants. La crise de l'Union Générale en elle-même débouche sur des pertes pour les gens qui avaient placé leur argent, mais n'a pas d'effet systémique, au sens d'effet sur les autres, sur le reste du système bancaire. Ce qui a des effets sur le système bancaire, c'est vraiment la crise boursière à travers ce marché des reports et cette perte de la liquidité qui en résulte. Donc c'est bien là que la Banque de France doit intervenir. Elle intervient correctement. Néanmoins, ce qu'on garde dans les mémoires, c'est que ce krach va mettre très longtemps à être liquidé. Et effectivement, l'activité économique s'en ressent pendant longtemps. Les pertes liées à l'Union Générale sont quand même assez importantes. Et donc les gens se disent, mais peut-être qu'on aurait dû sauver l'Union Générale elle-même. C'était indéfendable, en particulier dans la mentalité de l'époque, mais même aujourd'hui, quand on regarde les bilans de l'Union Générale, c'est difficile de penser qu'elle pouvait être sauvée, vu ce qu'elle avait fait avec l'argent qu'elle avait emprunté et avec ses fonds propres. Néanmoins, on garde ça en mémoire et on va se poser cette question lors de notre deuxième épisode en 1889.